Lundi 28 octobre, bonjour et bon réveil à tous. Bienvenue sur France Inter. Bernadette Chamonnaz, bonjour.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Fin de partie pour Abou Bakr el-Baghdadi, le terroriste le plus recherché au monde, est mort au cours de l'assaut mené par les forces spéciales américaines au nord de la Syrie, tout près de la frontière turque. Malade, isolé, c'était le chef incontesté du groupe État islamique. On en parle à 7h50 avec votre invité Alexandra Ben Saïd.
Oui, une défaite de plus pour Daesh. Quelles conséquences pour le groupe terroriste et quelle stratégie pour les États-Unis de Trump, l'un des meilleurs experts en relations internationales sera avec nous, c'est Bertrand Badie à 7h50.
Les autres titres du journal Bernadette.
Deux tiers des TGV Atlantique supprimés encore aujourd'hui, de longues files d'attente au guichet gare Montparnasse ce matin où nous serons en direct. Le retour triomphal de Matteo Salvini au régional en Hongrie, sa liste met fin à 50 ans de règne de la gauche. Deux citoyens au cœur de la convention climat, vous les entendrez dans ce journal et tout au long de cette expérience de démocratie directe sur France Inter. Les supporters du PSG exultent 4-0 sur l'OM dans le Classico. Désormais, il y a pas photo.
Invité de France Inter à 8h20, la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Valérie Rabault. Rendez-vous avec elle dans le grand entretien. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert et bien sûr sur l'application France Inter.
France Inter.
Au nord de la Syrie, un jet de pierre de la Turquie, région d'Idlib, village de Barisha, une maison isolée au milieu des oliviers, l'ultime planque du terroriste le plus recherché au monde, Abou Bakr al-Baghdadi, s'y trouvait quand la Delta Force, l'unité d'élite de l'armée américaine, appuyée par 8 hélicoptères, a lancé l'assaut. Acculé dans l'un des tunnels creusés sous la maison, l'homme s'est fait exploser, entraînant dans la mort 3 de ses enfants. Il est mort comme un lâche, a lancé Donald Trump dans son annonce triomphante de l'élimination du chef de Daesh, qui cette fois donc n'aura pas échappé à une traque incessante depuis 4 ans, comme l'explique la journaliste Sofia Amara, Valérie Crova.
Il se déplaçait avec un nombre limité d'hommes. Il a perdu plusieurs de ses gardes-corps, son fils. Il a été donné pour mort plusieurs fois, par 2 ou 3 fois. Il est avéré que les caches où il se trouvait ont bel et bien été visées, mais qu'il a eu, comme on dit, la baraka, c'est-à-dire qu'il en est sorti indemne. J'ai été en contact avec des personnes qui ont vu al-Baghdadi à Mossoul en fin 2014, évacué vers un hôpital à Raqqa. De même, j'ai été en Irak en contact avec des djihadistes qui disaient qu'il souffrait de fractures dues à des frappes aériennes. Donc il a bel et bien été visé, bel et bien été repéré. Les hommes que j'ai suivis ont retrouvé des médicaments de toutes sortes dans la tente dans laquelle il avait enregistré sa dernière apparition début 2019. C'était un homme malade.
Sofia Amara, qui a écrit une longue enquête sur cette traque donc d'Abou Bakr al-Baghdadi. Ce n'est pas un hasard si la dernière planque d'al-Baghdadi se trouvait tout près de la frontière turque, comme s'il prévoyait une possible exfiltration vers ce pays. Selon Donald Trump, aucun soldat américain n'aurait été tué dans l'opération. Elle aurait fait en revanche un grand nombre de morts dans les rangs des partisans de Baghdadi. Le calife autoproclamé, qui a dirigé jusqu'à 7 millions de personnes, a vu en 4 ans son État islamique se dissoudre sous les assauts de la coalition internationale. Mais Valérie Crova, la mort du chef ne signifie pas celle de Daesh.
De l'avis de tous, la mort de Baghdadi est symboliquement un coup sévère porté à Daesh. Mais l'organisation djihadiste n'a pas d'autre choix que de nommer son successeur au plus vite. C'est une question de survie. Défait territorialement, l'État islamique ne l'est pas idéologiquement. La désignation du futur calife se fera à travers son conseil consultatif, sorte de gouvernement qui se renouvelle en fonction des pertes subies. La difficulté sera de trouver une personnalité fédératrice, capable d'unir les différentes factions qui lui feront allégeance. Or, Baghdadi bénéficiait au sein de Daesh d'une aura, de par son passé militaire et religieux, dont peu de ses autres cadres dirigeants peuvent se prévaloir. La direction de l'État islamique est aujourd'hui décapitée, mais la relève sera assurée et de nouveaux leaders vont émerger, estiment les connaisseurs de Daesh, persuadé que l'organisation survivra à la mort de son chef.
Et la réaction aussi du président Emmanuel Macron, la mort d'al-Baghdadi n'est qu'une étape, le combat continue. En France, le ministère de l'Intérieur alerte également sur les risques de vengeance de la part d'éléments radicaux.
7h05, Bernadette, on parle maintenant de la SNCF, situation encore très perturbée pour les TGV Atlantique.
Après un week-end difficile en raison d'une grève du centre de Châtillon, sur laquelle on va revenir dans un instant, mais tout de suite, on fait le point avec vous, Caroline Félix, en direct de la gare Montparnasse à Paris. C'est là que les difficultés se concentrent.
Oui, alors sur les panneaux d'affichage, ce n'est qu'une longue liste de trains supprimés pour Toulouse, Matabiau, Bordeaux, Saint-Jean ou Nantes. Il y a peu de voyageurs dans le hall parce que la plupart ont reçu le petit SMS ou le mail de la SNCF pour les prévenir de la suppression de leur train. Ceux qui sont là, c'est que leur train est maintenu ou alors ils viennent tenter d'échanger leurs billets. Les rares agents de la SNCF sont assaillis de questions d'usagers. Parmi eux, il y a Christiane et son mari. Ils viennent de loin, de La Réunion, ils veulent aller à Lourdes. Leur train a été supprimé. Mais ils ne savent pas si leur hôtel va pouvoir être remboursé s'ils n'arrivent pas à bon port. Ils sont arrivés tôt au guichet, il y a une heure pour être sûr d'avoir une réponse et ils font toujours la queue à l'heure qu'il est. Yvan, lui, veut aller voir sa femme hospitalisée à Hendaye dans le Pays Basque et au lieu d'avoir un direct, il devrait faire deux changements, mais il arrivera à bon port avec 5 heures de retard. On fait avec, me dit-il, avec le sourire.
Merci Caroline Félix en direct de la gare Montparnasse avec Stéphane Beaufils pour les moyens techniques. Une grève donc déclenché il y a une semaine sans préavis au centre de Châtillon par les agents qui s'occupent de la maintenance quotidienne des trains. Pour une question d'organisation du temps de travail, la direction fustige le jusqu'au boutisme des grévistes. Les syndicats accusent la direction de jouer le purissement. Plus de problèmes en revanche en région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les TER et toujours des bus de substitution entre Montpellier et Narbonne.
En Italie, Bernadette, retour triomphal de Matteo Salvini.
Sorti par la porte, le leader d'extrême droite revient par la fenêtre. Sa liste remporte très largement avec quelques 20 points d'avance. Les élections locales en Ombrie, il met dehors une gauche qui gouvernait cette région au cœur de l'Italie depuis plus d'un demi-siècle. Bruce de Galzin.
Il avait parié que ce serait une première gifle pour la majorité au pouvoir. Un pari gagné et bien au-delà de ce que donnaient les sondages. Matteo Salvini est le grand vainqueur de cette élection régionale. Il a fait campagne sur le terrain, dans les moindres recoins de l'Ombrie, gouverné à gauche depuis 50 ans. Mais cette nuit, c'est au pouvoir à Rome qu'il s'en est pris.
Les électeurs en Ombrie ont pu voter, à la différence de millions d'autres Italiens à qui ce droit a été retiré. Et c'est la confirmation que la Ligue est de loin le premier parti de ce pays. Ici, c'est la vraie Italie, pas celle temporairement au gouvernement, mais celle qui aujourd'hui a voté et qui, si elle votait demain, donnerait le même résultat pour toute l'Italie.
La claque est forte pour la première élection de la coalition entre les 5 étoiles et le Parti démocrate. Les 5 étoiles se sont effondrées, le parti est en crise, les démocrates ont sauvé les meubles, mais la coalition est encore plus fragilisée. C'est au président du Conseil, Giuseppe Conte, d'en tirer les conclusions. Il s'était lui-même déplacé en Ombrie, tout en rejetant l'enjeu national de cette élection régionale. À Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Et en Allemagne, un nouveau score très important pour l'extrême droite. Le parti AfD recueille un électeur sur 4 et devient la deuxième force politique dans cette région au centre du pays. En Argentine, victoire retentissante au premier tour du candidat péroniste de centre-gauche, Alberto Fernandez, devant le président sortant, Mauricio Macri, dont la popularité a fortement chuté dans un pays miné par la récession et l'inflation. En Californie, les pompiers perdent du terrain. L'incendie Kincaid Fire au nord de San Francisco, poussé par un vent à 145 km/h, poursuit ses ravages. Déjà 20 000 hectares brûlés, 180 000 personnes évacuées et toute la Californie placée en état d'urgence.
Dans l'actualité aussi, Bernadette, deux citoyens au cœur de la Convention climat.
Et nous allons les suivre, ces deux citoyens sur France Inter, tout au long des réunions qu'ils vont faire chaque week-end avec les 148 autres citoyens tirés au sort pour faire des propositions pour réduire les gaz à effet de serre. Objectif 40% de réduction d'ici 2040, dans un souci aussi de justice sociale. Réunion donc ce week-end. Célia Kiré a rencontré une retraitée de la fonction publique et un jeune architecte nantais. On les écoute.
Très curieuse et engagée dans les débats, Marie-Josée Victor n'en est pas moins critique. Cette retraitée, ancienne secrétaire de collège, vient d'un village des Hauts-de-France à 20 km de Béthune. D'accord pour réduire les émissions de CO2, elle refuse que ce soit au détriment des familles rurales, bien obligées de prendre leur voiture ou de se chauffer comme elle d'octobre à mai.
Je me demande si le gouvernement ne compte pas sur nous pour faire adopter les mesures qu'il a déjà plus ou moins décidées. Je me suis dit quand même, avec tous les spécialistes qu'ils ont, ils ont quand même tous les éléments. De ce fait-là, c'est nous qui seront à l'origine de ce qui va être proposé.
Parmi les idées qui émergent, mieux mesurer les émissions de CO2, taxer les produits d'importation en fonction du nombre de kilomètres parcourus, ou encore rapprocher le travail du domicile. William Ocan, lui, applaudit. Ce jeune architecte nantais, père de famille, est plus enthousiaste.
Le Français parcourt, on nous l'a dit hier, 40 kilomètres par jour pour aller à son travail, en moyenne. Comment le réduire ? La question du télétravail a été soulevée. Il y a aussi la question du partage, faire du covoiturage. J'ai bon espoir qu'on produise quelque chose de très important.
Et après ce week-end intense, ces deux citoyens sont bien décidés à travailler chez eux sur leurs thèmes respectifs, la nourriture et le logement, avec toujours les mêmes objectifs, moins de CO2 et plus de justice sociale. Ils reviendront à Paris avec peut-être de nouvelles idées le 15 novembre.
Célia Kyrée, 40 ans après la mort de Robert Boulin, sa famille organise aujourd'hui une reconstitution. Cet ancien ministre gaulliste avait été retrouvé noyé dans un étang des Yvelines. La police avait conclu à un suicide, mais la famille Boulin se bat pour faire admettre qu'il s'agit d'un assassinat. Elle a obtenu en 2015 la réouverture d'une enquête qui depuis piétine Jean-Philippe Deniau.
Depuis 4 ans, très peu d'actes ont été engagés, juste l'audition de deux témoins capitaux, le médecin un réanimateur arrivé en premier sur les lieux du drame, qui affirme que le corps n'était pas dans la position d'un noyé, et ce proche qui soutient avoir vu Robert Boulin dans une Peugeot avec deux autres hommes le jour de sa disparition. Deux témoignages que France Inter vous avait révélés, mais rien d'autre, reproche l'avocate de la famille Boulin, qui réclame notamment une expertise médico-légale du dossier, la déclassification des notes des renseignements généraux de l'époque, des confrontations urgentes avec d'autres témoins aujourd'hui bien âgés, et puis une reconstitution officielle semblable à celle que Maître Dosé organise aujourd'hui à titre privé pour tenter de faire bouger les choses. Car derrière le mystère de la mort de Robert Boulin se cachent d'autres secrets sur les financements occultes des années Giscard que l'ancien ministre aurait pu révéler et sur les activités du SAC, la milice du parti gaulliste dans les années 70.
Classico, il n'y a plus photo, PSG, Marseille, et c'est Paris qui gagne pour la 9e fois, 4-0 hier au Parc des Princes. Un Parc des Princes qui exulte, Cédric Guillou.
Le Paris Saint-Germain a une fois de plus ravi ses supporters lors d'un classico, que ce soit les habitués de la tribune Auteuil.
Très bonne soirée, surtout en première mi-temps.
Ou les novices du Parc des Princes.
Personnellement, c'est la première fois que je vais au parc, donc j'ai bien kiffé l'ambiance des ultras surtout.
Voir l'Olympique de Marseille voler en éclats est toujours extrêmement plaisant pour ces fans du PSG.
Ah bah oui, ça c'est sûr. En plus après on peut tacler nos potes et tout, c'est trop bien.
Marseille, ils ont pas assez le niveau, ils ont pas le niveau maintenant cette année. Je dirais que Paris sont sur une autre planète. Trop facile.
C'est toujours un plaisir. Aujourd'hui, je peux vous dire que je prends un pied, pas possible. Toutes les victoires comptent et toutes les victoires sont belles.
Des supporters un peu plus partagés quand il s'agit d'élire le joueur de ce classico.
Moi, je dirais toujours Mbappé, je pense.
Allez, on va dire Icardi, il a mis quand même des beaux buts et puis ça va l'encourager, quoi. Ouais, donc Icardi. Ouais.
Bon, on va dire Mbappé parce qu'on est un peu chauvin.
Et ce supporter parisien d'ajouter.
Ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a pas Neymar, donc ça donne un petit peu le ton et on se dit que s'il y a Neymar, ça peut faire très très mal, quoi.
Neymar qui a assisté hier soir au spectacle dans des tribunes du Parc des Princes qui ont longtemps chanté et savouré à l'issue du coup de sifflet final.
Voilà, 4-0, on le redit, quitte à faire un petit peu de mal aux Marseillais.
Hors norme, c'est d'ailleurs la une de l'équipe ce matin. Merci Bernadette Chamonaz.